Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez traversé des villages sur lesquels vous savez tout ou presque. Vous avez aussi traversé plusieurs cycles dans une vie où tout a tourné aussi rond que ces roues de vélo si chères à votre cœur. Bonjour Jean-Paul Olivier.
Bonjour Jacques Pessis.
On connaît votre voix, on vous connaît à travers la télévision. Et là, il y a un livre qui sort, Le Tour de France des villes et villages, chez Mareuil Édition. Ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, c'est la dernière étape du Tour de France qui va arriver à Paris. Bon, on va parler du Tour, mais on va aussi parler de vous, de faire un tour d'horizon de votre vie à travers des dates clés. Et la première date que j'ai trouvée, alors, ça vous dira peut-être pas grand-chose, c'est le 13 juillet 1968. Vous êtes le régional de l'étape à la télévision de Bretagne, puisque vous faites un reportage sur cette ville, chanté par Michel Arnaud.
Il pleuvait sur Concarneau, le ciel avait des larmes.
Il arrive de pleuvoir sur Concarneau ?
Oui, de temps en temps, c'est Guy Bontempelli, je crois, qui a fait cette,
exactement,
cette chanson.
Alors pourquoi je parle de cette date ? Parce que c'est l'un de vos premiers reportages à la télévision sur Concarneau. Vous évoquez des cirés qui sont fabriqués par Guy Cotten, indéchirables pour la pêche. Ça vous dit quelque chose ?
Absolument, Guy Cotten était un ami. Je le connaissais parce que d'abord il était de mon coin, il était de mon pays.
De Concarneau,
à Saint-Yvi,
oui.
Une petite localité tout à côté de Concarneau. Et puis, il a été aussi un peu coureur cycliste. Bon coureur cycliste, même régional. Et puis ensuite, eh bien, il a été représentant. Il vendait des cirés, déjà, enfin des vêtements de travail. Et ensuite, eh bien, il s'est lancé dans sa propre production.
Alors,
ça a été extraordinaire.
Concarneau, c'est une ville de pêcheurs, c'est aussi une ville de cinéma. Il y a eu de nombreux films tournés. Le premier, c'est en 1952, le film de Raoul Walsh, La Belle Espionne, avec Rock Hudson. Et ça a été tourné dans le bois du Port-Zou et sur les plages de Concarneau.
Bravo, vous en savez des choses.
Alors, vous êtes de Concarneau, avec un père qui n'est pas du tout dans le journalisme, un père marin, et qui a été ensuite infirmier sur les bateaux.
Oui, il était infirmier. Il a passé beaucoup de temps à la Compagnie Générale Transatlantique, c'est-à-dire sur les grands paquebots, c'est-à-dire le Normandie avant-guerre, l'Île-de-France, le Liberté, Antilles.
Et je signale d'ailleurs qu'il y a un livre qui sort chez Cope Braise, Le bateau du père, où vous racontez un naufrage dont votre père a été le témoin, et c'est un roman vrai.
Oui, c'est vrai.
Ça, je conseille à celles et ceux qui nous écoutent de l'écouter. Alors, il y a le sport, et le sport, ça vous a toujours passionné, Jean-Paul Olivier.
Oui, vous savez, on ne sait pas exactement pour quelle raison on se passionne pour quelque chose, mais vous savez, ça vient comme ça. J'ai toujours aimé le sport, et en particulier le cyclisme, un peu moins le football, mais normalement, le cyclisme, ça a été ma vie.
Vous collectionniez enfant les photos des champions.
Exactement, vous savez, on achetait pour 5 francs le chewing-gum, et dans le chewing-gum, il y avait une photo de champion.
Et moi, j'ai connu en Italie, en vacances, des petites billes, où on jouait aux billes sur la plage, avec des photos de champions sur leur vélo à l'intérieur.
Oui, et puis il y avait également dans d'autres chewing-gums, je me rappelle, une vignette, et on appelait ça la vignette magique, c'est-à-dire qu'on la trempait dans l'eau, et puis apparaissait la photo d'un coureur. C'était beau.
Alors, le journalisme, bon, vous auriez pu devenir marin comme votre père, mais le journalisme vous a tout de suite tenté.
Oui, alors, vous avez raison de dire que j'aurais pu devenir marin comme mon père, parce que, et tout simplement, parce que mon père n'était pas très content que j'entre dans le journalisme. Je suis rentré dans le journalisme très jeune, j'avais 17 ans et demi, et à cet âge-là, il y avait les jeunes de mon âge qui étaient mousses, qui étaient sur les bateaux de pêche. Et ben moi, j'étais pas sur les bateaux de pêche. Et mon père disait, ben regarde ton copain Bernard, ce qu'il gagne par marée, etc. Et moi, ben j'étais pigiste, j'avais pas grand chose. J'étais pigiste à Vélo Journal.
Ça a disparu totalement, Vélo Journal.
Vélo Journal a disparu. Oui, ça a duré 2-3 ans.
Mais à l'époque, bon, c'est pas comme aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire 4 ans d'études dans une école pour être journaliste, Jean-Paul Olivier.
Non, absolument, absolument. Moi, je regardais mes autres confrères, les Chagny, les Bastides, les Abel Michéa, etc. Je les regardais, je regardais leurs plumes, je regardais tout ça, je m'imprégnais de leurs écrits.
Mais comment on rentre dans un journal quand on a 17 ans ?
Eh bien, c'est simple. Ça a été simple pour moi. Parce que vous savez, je me passionnais pour le cyclisme. je me passionnais pour le cyclisme, et j'arrivais à tout connaître, à connaître tous les champions, savoir où ils étaient nés, ce qu'ils avaient gagné, etc. Et puis un jour, dans une petite course, un petit critérium à Sker, dans le centre Finistère, il y a deux coureurs qui avaient abandonné, et je m'approche d'eux, et je leur dis, il y en avait un qui s'appelait Maurice Mouchereau, je leur dis, alors monsieur, je lui dis, monsieur Mouchereau, j'étais en culotte courte, vous comprenez, c'était en 58. Monsieur Mouchereau, vous avez abandonné, ça n'a pas marché aujourd'hui. Alors il me dit, non, il prend ça un peu à la légère, et puis à un certain moment, il se tourne vers moi, il me dit, comment se fait-il que tu me connaisses ? Ben, je dis, vous savez, moi je connais tous les champions, je sais que vous êtes né à Potengi, dans la Marne, le 28 juillet 1933, que vous avez gagné Paris-Conche en amateur, Paris-Dieppe, Paris-Vierzon, que vous êtes passé professionnel en 57, c'est-à-dire l'année dernière, que vous avez gagné la première étape du Tour de l'Oise. Alors il est resté là, il y a eu un moment d'éternité qui s'est passé, et puis il m'a dit, môme, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Ben, je dis, je voudrais être un tout petit peu coureur cycliste pour connaître un peu le métier, mais je voudrais surtout être journaliste. Eh bien, lorsque le moment sera venu, hein, lorsque tu seras suffisamment grand et armé, eh bien, on essaiera de voir ça. Et je suis entré dans le journalisme.
Et voilà. Alors, vous avez aussi travaillé dans un autre journal disparu, qui est l'Aurore, où Pierre Desproges, d'ailleurs, a débuté avec des petites chroniques avant de faire le métier que l'on connaît. Là aussi, ça a été une passion pour vous.
Oui, ça a été une vraie passion, parce que l'Aurore était un grand journal. Ça me donnait l'envergure d'un destin plus brillant aussitôt. Et j'étais à ce moment-là dans la rubrique sportive avec Jean Leliot. Jean Leliot était célèbre pour avoir été à l'auto jadis, pour avoir été auprès d'Henri Desgranges et pour diriger ensuite Paris-Nice. Alors j'étais auprès de lui, alors là j'avais la Bible en face de moi, c'était formidable.
Et puis ensuite, il y a eu la télé, donc vous êtes rentré par la petite porte avec, en Bretagne, je crois, où vous avez fait des reportages, comme celui qu'on a cité, et en même temps présenté le journal.
Oui, j'ai d'abord été à Djibouti, parce qu'il y avait le service militaire, bien entendu, et au service militaire, je me suis inscrit, j'ai rempli un dossier de coopération technique, et on m'a envoyé à Djibouti. Côte française des Somalis à l'époque. Et à Djibouti, il y avait une radio à l'époque, c'était Radio Djibouti. Alors, j'ai commencé par faire les journaux radio. Donc, et j'ai fait mon premier journal radio le 22 mai 1964, c'est-à-dire le jour de mes 20 ans. Je suis né le 22 mai 1944.
Et finalement, ensuite, il y a eu la Bretagne. Oui. Alors là aussi, vous avez présenté le journal, vous avez tout fait. Avec des moyens minimes, je suppose, à l'époque, Jean-Paul Olivier.
À l'époque, c'était les stations régionales, c'était les stations régionales de l'ORTF. On m'avait demandé où je souhaitais aller. J'ai dit, vous savez, je parle un peu le breton. Il y a une station à Rennes. J'aimerais retrouver mes compatriotes. On m'a dit, pas de problème, vous attendez un petit peu, un mois ou deux, et puis on va vous envoyer à Rennes. Et je suis arrivé à Rennes.
Et donc, vous avez tout fait, parce que j'ai vu un reportage où vous interviewez Jean-Claude Anou, chanteur qui chante à l'époque Les Jeunes Loups, où vous l'interviewez en fumant une cigarette, ce qu'on ne verrait pas aujourd'hui.
Oui, c'est pas moi qui fumais ici.
Si, c'est vous.
Ah, c'est assez rare. Hein,
c'est assez rare, mais l'image existe.
Parce que je ne fumais pas, d'une manière générale. Peut-être c'était pour se donner un genre, ouais. Etc.
Et effectivement, c'était pas les moyens de la télévision d'aujourd'hui. On entrait dans un studio, on faisait son journal et puis on repartait. Il n'y avait pas de censure, il n'y avait pas des directeurs à tous les étages.
Non, mais enfin, il y avait quand même un contrôle. Et puis, on se censurait soi-même, vous savez, on faisait quand même très très attention. Parce que la télévision régionale était bien cernée par les politiques locaux également, hein.
Alors, on est en 68, le Tour 68, c'était le dernier par équipe, je crois, et il était marqué par une grève des reporters sur la route de Bayonne, parce qu'ils trouvaient le tracé monotone, vous en souvenez ?
Oui, alors c'est pas tout à fait ça, mais disons que les coureurs étaient marqués, contris par un contrôle antidopage inopiné, qui avait eu lieu à Bordeaux. Et le lendemain, donc, ils ont décidé une grève. Les coureurs allaient sur Bayonne et je ne sais pas, une dizaine de kilomètres après le départ de Bordeaux, les coureurs ont mis pied à terre et ont marché pendant quelques minutes.
Et pour la petite histoire, c'est Jan Janssen qui a gagné ce tour, et c'est l'une des rares fois avec Jean Robic que le maillot jaune a été porté par le gagnant le jour de la dernière étape.
Absolument.
Voilà. Écoutez, vous savez beaucoup de choses sur le Tour de France, vous savez beaucoup de choses sur le sport en général. On va en reparler dans quelques instants avec une autre date, le 1er février 1976. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Olivier.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Paul Olivier. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du Tour de France et vous publiez ce livre, Le Tour de France des villes et villages chez Mareuil. On va en reparler, mais avant, on parle de votre carrière. 1er février 76, c'est votre premier reportage dans cette émission. Stade 2. Stade 2, ce jour-là, d'après les archives, vous faites un reportage sur Alain Calma, qui n'est plus champion de patinage artistique, mais médecin. Vous vous en souvenez, Jean-Paul Olivier ?
Ah, je m'en souviens très bien, oui. J'étais allé le voir à la patinoire des Champs-Élysées. Alain, ça me rajeunit pas vraiment.
Oui, mais en même temps, c'était vos débuts officiels dans Stade 2, qui avait démarré un mois plus tôt, le 28 décembre, et vous êtes entré dans cette émission en arrivant au service des sports. Comment êtes-vous arrivé au service des sports, Jean-Paul Olivier ?
Eh bien, en 1975, parce que c'était sport sur la 2 d'abord, hein, pendant un an. En 1975, donc, comme j'étais journaliste sportif, bien sûr, Jacques Salbert, j'étais rentré en France de Djibouti, et Jacques Salbert me dit « Bon, ben, j'ai pas de place de toute façon ailleurs, et je vais vous mettre au sport. » Je dis « Moi, ça me va très très bien, etc. »
Jacques Salbert qui avait fait le reportage le plus connu de la télévision, celui du couronnement de la reine Élisabeth en 53.
Exact. Et donc, disons qu'on était neuf au départ. Les neuf créateurs, en quelque sorte, sans outrecuidance, de Stade 2.
Et alors, Stade 2 a été une révolution parce que c'est une émission qui a marqué l'histoire de la télévision, Jean-Paul Olivier.
C'est une émission qui dure toujours, en plus. C'est donc que ça a duré, effectivement, comme vous dites.
Et le premier à avoir fait du sport à la télévision, c'était un ancien champion, Raymond Marcillac, qui avait inventé Télé Dimanche, qui était inspiré de sport et musique à la radio, et Sport Dimanche, que vous suiviez, je suppose.
Oui, absolument. Marcillac, déjà, avait été un bel athlète. Hein. Il était né à Levallois, il avait couru sur les pistes encendrées du monde entier, il avait été champion de France. Donc, c'était un homme de sport, il savait parler de sport.
Et quand vous regardiez Sport Dimanche à la télévision, ça vous faisait rêver ? Vous disiez peut-être qu'un jour je serais moi aussi sur un plateau de ce genre ?
Je ne pensais pas à la télévision, je pensais à l'écriture, au journalisme de presse écrite, peut-être de radio, mais je ne pensais pas encore à la télé.
Marcillac, il y a eu un gros scandale avec Noëlle Doblecourt, qui était sa présentatrice en 64, qui a été virée parce qu'elle avait montré ses genoux. En fait, je pense qu'il y avait plutôt une histoire de harcèlement qui aujourd'hui serait sur les réseaux sociaux.
Oui, absolument.
Ça fait partie des secrets de la télévision, à l'époque on n'en parlait pas.
Ça et tout change. Hein.
Alors, il y a aussi dans ces émissions, le football, c'est pas votre spécialité, mais il est très présent à la télévision, ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque dans les années 60, la FIFA ne voulait pas que le football soit à la télévision, parce que ça faisait baisser les recettes des stades.
Mais effectivement, c'est vrai, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Ça n'a pas duré trop longtemps. Hein. On est revenu à une télévision qui diffusait des matchs de football et c'était très bon d'ailleurs pour le public français en particulier.
Et il y a un monsieur qu'on a oublié qui s'appelle Ernest Chamon. Je ne sais pas si vous le connaissez. En 1927, il dit que le football sera le plus grand spectacle télévisé un jour. À Londres, il rencontre des gens qui expérimentent les premiers téléviseurs et c'est lui qui était le pionnier du football à la télévision.
Oui, absolument, absolument.
Alors, le sport à la télévision, c'était aussi des gens que vous avez connus, Claude Darget. Vous l'avez croisé, Claude Darget, Jean-Paul Olivier ?
Oui, je l'ai croisé dans les couloirs. Je lui ai parlé plusieurs fois, mais je n'ai pas travaillé avec lui. Mais Claude Darget était assez extraordinaire, vous savez. Il avait son parler un peu aigu et il ne supportait pas Léon Zitrone.
Oui.
Il ne supportait pas Léon. Et à un certain moment, Darget s'est retrouvé à la porte. Et il s'est retrouvé avec son bureau dans le couloir. Et Léon Zitrone, lui, était obligé de passer dans le couloir devant son bureau. Et à ce moment-là, Darget avait un petit chien qui s'appelait Larsouille. Et lorsque Zitrone arrivait, Darget était prêt et il disait à Larsouille, « Fais le Zitrone !» Et le chien s'aplatissait.
Oui, ça n'a pas fait plaisir à Zitrone. Mais surtout, dans le sport, Darget a été aussi un pionnier du catch. Le catch a été connu à la télévision, grâce à Claude Darget, qui a été le premier commentateur. Darget qui disait « La télévision, c'est 8 heures d'attente pour une minute de génie ».
C'est une belle phrase. Et quand il commentait le patinage artistique, et il disait, par exemple, couple mixte, donc... Olga Polosova, étudiante, Yuri Popov, étudiant. Ils doivent en savoir des choses.
Et puis, il y a eu aussi Roger Couder, le rugby lui doit beaucoup à la télévision. Ça, vous avez travaillé avec lui.
Oui, alors lui, j'ai travaillé beaucoup avec lui. Je m'étais même instauré son secrétaire, parce qu'il recevait quand même un abondant courrier lorsqu'il est revenu à la télévision. Alors, de temps en temps, je faisais le tri des lettres, puis j'ai répondu à quelques-unes.
Et c'était un monsieur joyeux, passionnant.
Ah, il était très agréable.
Et quelqu'un qui avait aussi l'esprit potache et que vous avez vu débuter, c'est Thierry Roland.
Oui, bah Thierry, il a commencé très jeune aussi. Hein.
Et là aussi, vous avez travaillé avec lui. C'était une ambiance qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, Jean-Paul Olivier.
Absolument, on était tous autour d'une table et puis comme de joyeux potaches. Et puis bon, on ne se tirait pas dessus, comme souvent je vois le cas aujourd'hui. C'était une belle ambiance, une ambiance saine, etc. Mais on n'était pas forcément nombreux non plus. À partir du moment où on était une quinzaine dans le service, ça allait.
Et puis, vous faisiez des blagues ensemble. Moi, je me souviens de Thierry Roland qui avait fait un jour un pari sur Laurent Fignon. Il avait réussi à placer une formule dans le Tour de France. Dans Stade 2, vous la connaissez sans doute.
Oui. Finalement, vous n'avez pas eu de trou, Fignon.
Voilà.
C'est ça?
Oui, c'est exactement ça. C'était un pari qu'il avait gagné. Mais cet esprit potache de ces gens qui travaillaient par passion, on n'imaginait pas à l'époque qu'ils allaient devenir mythiques, que leur nom allait devenir mythique.
Non, je crois qu'il n'y pensait pas, personne n'y pensait.
Et alors, c'était aussi beaucoup, beaucoup de travail, mine de rien, tout ça.
Oui, mais enfin, c'était un peu le travail dans la joie, c'était toujours très, très agréable. Et oui, c'est sûr qu'il fallait des compétences, mais les compétences, on les avait par le travail, précisément, par les documentations que nous avions. Enfin, moi, je travaillais un petit peu plus que les autres, peut-être, parce que les autres, c'était des stars, et moi, j'étais le un peu plus besogneux qu'eux,
oui,
plus jeunes.
Mais en même temps, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, il n'y avait pas Internet, il fallait vraiment être sur le terrain en permanence, Jean-Paul Olivier.
Absolument.
C'était difficile.
Alors, c'était... c'était quand même agréable, parce qu'on apprenait très vite sur le terrain.
Et quelqu'un qui vous a beaucoup appris, c'est Robert Chapat.
Robert était déjà... il avait été coureur cycliste. Il avait été dans l'équipe de France. Et donc, ça avait été un bon professionnel, dirons-nous. Et donc, ensuite, il avait une certaine faconde. Lorsqu'il a quitté les pelotons, il est devenu reporter. Radio, c'était la radio à l'époque. Il est devenu reporter. Alors, évidemment, il connaissait tous les coureurs, parce qu'il venait de les quitter. Et donc, il commentait 60 hommes qui disputaient un sprint. C'était normal, presque.
Et il a une particularité, il a été le premier coureur à être interviewé pour le Tour de France en 1949, quand la télévision est venue le filmer. Personne n'avait jamais été interviewé pour le petit écran avant lui. Je ne sais pas si vous le savez.
Oui. Je crois que c'était Salbert qui avait fait l'interview.
Et Jacques Salbert ou Georges Decaune.
Je crois que c'était Salbert.
Voilà. Finalement, cette époque-là, c'est une époque bénie que vous regrettez peut-être, non?
Non, vous savez, je ne regrette rien. Vous savez, tout s'est bien déroulé. Quand je regarde en arrière, je me dis, tiens, oui, on a fait ça. Tiens, je me rappelle de ça. C'était beau, c'était sympa. Et non, il n'y a aucun regret.
Et d'ailleurs, il s'est passé d'autres choses. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 27 juillet 2014. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Olivier.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Paul Olivier. Tout à l'heure, on parlera de ce Tour de France des villes et villages que vous racontez en ce dernier jour du Tour de France. et une date importante pour vous, le 27 juillet 2014. Ça vous dit quelque chose ?
Oui, je pense que c'était mon dernier Tour de France.
Exactement, vous prenez votre retraite après, je crois, 40 ans de passion.
Oui, j'avais 70 ans.
Oui.
Et j'avais accompli 40 Tours de France.
C'est quand même un record, je crois.
Oh, c'est dans les records.
Oui.
Mais je suis probablement pas le recordman. Il y a eu Pierre Chagny, il y a eu Jacques Augendre, même Daniel Potra a fait peut-être un petit peu plus que moi. Mais bon, ça n'est pas un problème. On ne cherchait pas les records.
Non, c'était la passion. Ça vous a permis de réaliser un rêve en approchant les coureurs de près.
Absolument.
C'était un rêve de toujours.
Ah bah oui, c'était un rêve de toujours. Vous savez, depuis 1958, quand j'ai eu ces hommes-là, ces coureurs que j'ai vus dans cette localité du Sud Finistère, et puis je les aimais toujours, ces coureurs. J'avais pas de télévision, très peu de radio à la maison. Alors donc j'avais Murat Sprint que ma mère m'offrait tous les mercredis. Et donc, je voyais ça en grand, je voyais ces coureurs, je disais, oh, un jour, peut-être que je les rencontrerai. Et bon, voilà, c'était la vraie, vraie passion.
Alors, vous avez débuté le Tour de France comme reporter, je crois, sur la moto, Jean-Paul Olivier.
Oui, j'ai dû commencer la moto 3-4 ans après mon premier Tour de France. Donc, quatrième ou cinquième Tour de France, j'étais sur la moto.
Et arrivé sur le Tour de France, c'est venu comment ? Qui vous l'a proposé ? Est-ce que c'est Chapat ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ?
Oui, ça a été Chapat, mais c'est venu normalement. Le problème, le simple problème qui intervenait, c'est qu'il y avait quand même des reporters chargés du sport cycliste sur la chaîne, comme Jean-Michel Leliot, comme Richard Diot notamment, et Chapat lui-même, qui avait gardé ses prérogatives. Donc, je ne pouvais pas intervenir. Je ne pouvais pas intervenir. Alors, au tout début, j'avais fait quelques reportages sur l'ambiance dans le Tour. J'avais interviewé des coureurs. Donc, c'était des reportages autour du Tour. Et puis après, je suis rentré dans le Cénacle.
Alors, la moto, c'était quand même pas les motos d'aujourd'hui. Elles étaient quand même plus dangereuses à cette époque-là, non ? Il fallait faire attention.
Je n'ai jamais vu le danger.
Non, bien sûr, mais est-ce qu'il existait ?
Oui, mais vraiment, vraiment, on n'y pensait pas. J'avoue que je ne peux pas faire de littérature là-dessus.
D'ailleurs, Léon Zitrone lui a fait aussi le Tour de France. Il y a une anecdote qu'on raconte, c'est qu'il est avec un autre journaliste et dans une voiture. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était l'étape, une étape qui arrivait à Saint-Germain-en-Laye.
Voilà.
Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Germain-en-Laye. Et donc, il pleuvait d'ailleurs, et ils étaient tous les dans la voiture, et on entendait des « Vive Zitrone, vive Zitrone, vive Zitrone !» Et puis, à un certain moment, on entend un « Vive Giroud !» Et alors, Zitrone se tourne et dit « Vous avez de la région ? Vous avez de la parenté dans la région, Bernard ?»
Voilà, ça n'a pas plu du tout. Alors, le Tour de France, votre découverte, ça a été aussi la fête que représentait le Tour de France, Jean-Paul Olivier.
Oui, évidemment, c'est un fait social, le Tour de France, hein, on ne peut pas aller contre. Mais
quand on le vit de l'intérieur, c'est différent que quand on le voit à la télévision ou quand on l'écoute à la radio.
C'est sûr, mais bon, moi je ne voyais pas trop l'aspect festif, il existait, je le sentais là, mais moi j'étais toujours très appliqué. J'étais toujours très appliqué, parce que vous savez, quand les gens vous disaient « Ah oh, bah, vous deviez faire la fête le soir au Tour de France », je n'ai jamais fait la fête.
Jamais ?
Jamais. Au début, peut-être, mais ensuite, non. Dans les premières années, peut-être, mais et encore. Mais donc, je me réfugiais toujours dans ma chambre, je regardais mes fiches, je voyais un petit peu ce que je pouvais faire, ce que je pouvais dire là, etc., voilà. Et ensuite, ça a augmenté en intensité, parce que quand j'ai commenté le patrimoine, quand j'ai commenté les châteaux et tout ça, ben il a fallu quand même s'y mettre.
Mais c'est quand même une fête. Quand on est au milieu, on est hors du temps. Dans la journée, avec la foule autour et ses coureurs, c'est quelque chose de magique, non ?
Ben oui, mais...
Bon, comment on le vit ?
C'est vrai, mais on passe, quoi. Vous savez, on est quelque part des passeurs de mémoire, mais on aime la foule aussi, on aime la foule. Mais finalement, elle se fait trop pressante parfois. Moi, je me souviens, en montant l'Alpe d'Huez, il fallait pas laisser 10 mètres entre les coureurs, parce que ils envahissaient la route. Alors j'étais obligé de donner des coups de pied parfois pour passer. Ça, c'était dangereux. Certaines fois, c'était dangereux.
Parmi les légendes du Tour, il y a Antoine Blondin, qui a commenté pour l'équipe les Tours de France. Vous l'avez croisé, je suppose.
Oui, j'ai bien croisé. Mais je faisais attention tout de même, parce qu'il était dangereux, Antoine. Hein. Il vous entraînait très vite. Il vous entraînait très vite. Mais je ne sais pas comment il faisait. Parce que, vous savez, quand je le passais avec la moto, il était dans la voiture rouge, là, de
101, je crois,
des journalistes de l'équipe. Et alors, je tapais un petit peu à la vitre, il dormait. Alors, il se réveillait, et puis on échangeait deux mots, et puis pouf, il replongeait dans le sommeil. Je lui dis, comment va-t-il faire ce soir pour sortir son papier ? Puis son papier était flamboyant le lendemain. C'était étonnant. Et puis alors, il s'adaptait très vite. Mais je crois qu'il a expliqué qu'il avait toujours du mal à faire son papier. Parce que quand il restait 10 kilomètres, par exemple, il souffrait. Quand il restait 5 kilomètres, il souffrait encore plus. Et puis à l'arrivée, alors là, il avait les tripes qui gonflaient exagérément.
Alors, il a dit un jour, on quitte les bras de sa mère pour le guidon d'une bicyclette. C'est une belle formule.
Ah ouais.
Son premier tour, c'était le tour 55. Troisième et dernier tour remporté par Louison Bobet. Ça, c'est un tour dont vous avez le souvenir, peut-être pas en tant que journaliste.
Oui, bien sûr.
Parfaitement. Et je crois que c'est l'année où la photo finish a fait son apparition.
C'est exact. C'est un tour qui partait du Havre. Mais Antoine avait fait le tour 54 en partie. Hein, il n'avait pas fait totalement, mais il était arrivé à Bordeaux et il a quitté le Tour à Toulouse. Mais il avait déjà marqué son territoire, parce que c'était formidable.
Et ce Tour 55, c'est aussi apparemment l'une des premières fois où on a vraiment parlé de dopage avec un Suisse qui s'appelait Ferdi Kuppler, qui a arrêté dans le Ventoux. On était persuadé qu'il était dopé. On a trouvé des seringues dans sa chambre d'hôtel. C'est la première fois.
Oui, mais à ce moment-là, donc, il n'y avait pas de contrôle encore.
Voilà.
Il
n'y
avait pas de contrôle. C'est-à-dire que Ferdi Kuppler était un personnage quand même vieillissant. Il avait connu une très belle carrière de champion. Alors, il s'était dit « je vais attaquer dans le Mont Ventoux ». Or, il attaque dans le Mont Ventoux en pleine canicule. C'était terrible, ce jour-là. Et puis, il part et il passe Geminiani. Il passe Geminiani en injection, comme ça. Et Geminiani lui dit « Attention, Ferdi, le Ventoux, c'est pas un tour comme les autres. » Et il répond « Ferdi non plus pas comme les autres. Ferdi, grand champion. »
Et c'est, hélas, ça s'est mal terminé. Vous avez une heure phénoménale de tous ces tours. Hein. Comment faites-vous ?
C'était les tours de mon adolescence. Et ça, c'est marrant parce que j'écoutais un petit peu à la radio. J'avais pas grand chose comme information, mais c'est le peu d'informations que j'avais, ça pénétrait en moi et ça n'en sortait plus.
Alors, il y a une légende aussi du Tour de France. C'est une accordéoniste dont on va écouter un morceau qui est un classique. Yvette Horner. Qui a fait le Tour de France. Elle a fait, je crois, 11 Tours de France de 52 à 63. Au départ, c'est la société Calor qui avait sponsorisé le Tour, qui lui a demandé de venir sur le Tour pour une fois, pour le podium à l'arrivée de chaque étape. Elle arrivait avec un sombrero et sur le toit d'une Citroën Traction. Et puis, ça a été la reine du Tour de France et des 6 jours. Vous l'avez croisée ?
Enfin, je l'ai croisée, après quand même. Après, je l'ai bien connu, puisque régulièrement, avec son impresario, elle nous invitait avec ma femme à déjeuner dans son habitation, là, dans le 12e.
Tout était en accordéon. Je crois que les portes, il y avait des poignées d'accordéon.
Ah oui, ça c'était dans sa maison,
oui.
Dans sa maison de Nogent. Mais moi, je l'ai connue dans le 12e, lorsqu'elle avait vendu sa maison de Nogent. Et donc, elle restait très nostalgique du Tour de France. Mais le problème, c'est qu'elle était... en fait, son premier Tour de France, c'était sous l'égide des vins de France. Sous l'égide des vins de France. Ensuite, elle est passée à la Suze, et puis chez Calor, comme vous disiez. Et alors, vous savez, elle faisait une tournée... Le Tour de France, c'était terrible pour elle, parce qu'elle faisait le tour. Elle jouait de l'accordéon. pendant l'étape. Elle remettait le bouquet à l'arrivée. Elle allait se changer. Elle faisait un spectacle du soir et elle finissait à 1h du matin parce qu'elle donnait des autographes ensuite, etc. Et puis le matin à 7h, elle était debout. Oui. C'était terrible. Alors, à un certain moment, les gens d'apéritif, là, lui ont dit, qui la sponsorisait, ont dit, bon, bah, écoutez, Yvette, là, vous allez vous tuer à faire ça. Elle était suivie fidèlement par son mari, qui la pilotait aussi. Et vous allez vous tuer, Yvette. Il dit, écoutez, nous allons faire une chose. Nous allons faire une Yvette Horner en celluloïde et on va la mettre à votre place. Et alors, ils ont sorti le bébé en celluloïde avant de gravir le col d'Aspin. Et donc, on a mis la statue en celluloïde. Mais les gens qui applaudissaient, Yvette, etc., ils ont très vite compris que c'était son sosie, mais faux. Et donc, ils ont commencé à la caillasser. Et Yvette a pris un petit caillou dans l'œil. Donc, enfin, elle s'en est tirée, bien sûr.
Et puis, il y a eu quand même beaucoup de personnalités. Il y en a tous les ans qui vont sur le Tour de France. Jean Castex est allé cette année. Et la personnalité la plus étonnante, ça a été en 60, quand, quelques minutes avant d'arriver à Colombey-les-Églises, Jacques Godet, directeur du Tour, a appris que De Gaulle était dans la foule.
Oui. Alors, Jacques Godet, c'était l'étape Besançon 3.
Oui.
Et Jacques Godet, donc, à un certain moment, peu avant le ravitaillement de Chaumont est à 27 km de Colombey, hein, lorsqu'il s'est dit, mais mince, on va passer par Colombey. Et si le général était là? Et si le général était sur le bord de la route? Il ne pensait pas trop, mais il s'est dit, mais peut-être. Et il dit à Élie Vermelinger, qui était son secrétaire général, il dit, Élie, vous prenez une moto, là, et vous allez tout de suite à Colombey, et vous rendez compte. Et Élie Vermelinger arrive, et il voit que le général regarde passer la caravane publicitaire.
Garde du corps, sans rien.
Il s'est dit, mince. Si, il y avait Tessier, le garde du corps. Ouais. Il y avait un garde du corps à côté, et il y avait son aide de camp, François Floïc, qui était là. Bref, et il était là avec madame, et il regardait passer le tour. Je ne dirais pas dans l'indifférence générale, mais enfin, c'était les gens du village qui étaient autour, personne ne manifestait ou quoi que ce soit. Et donc, là, aussitôt, Élie Vermelinger prend le téléphone de la gendarmerie, qui était là, enfin des gendarmes du tour, et téléphone à Godet, et dit, le général est sur le bord de la route. Alors là, c'était terrible. Alors, il contacte Félix Lévitant, qui était dans une autre voiture.
Oui.
Il contacte Jacques Marchand, qui était le journaliste qui faisait Radio Tour. Il dit, alors, que va-t-on faire? Le général est sur le bord de la route. On va arrêter le tour. Alors, Félix Lévitant dit, non, on n'a jamais arrêté le tour. Il n'y a que la guerre qui a arrêté le tour. Jacques Marchand disait pareil. Alors, bon, mais il faut faire vite. On va arriver à Colombey. On va arrêter le tour. On va arrêter le tour pour 2 minutes. Et là, alors, Jacques Godet appelle Henri Anglade, qui était un peu le capitaine de route de l'équipe de France. Il lui dit, Henri, vous allez me mettre en ligne, devant. Eh bien, vous allez me mettre Antonin Roland, qui est le plus ancien du peloton. Vous allez me mettre André Darrigade, qui est le champion du monde sortant. Jean Gagzic, qui est le maillot vert. Et naturellement, le maillot jaune, Gastone Nelchini. Vous les mettez tous devant. Et puis moi, je suis devant avec ma voiture et je vous arrête devant le général. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et le général s'est trouvé un petit peu confus. Alors il a dit, mais il ne fallait pas vous arrêter. Il a dit, il était naïf un peu. Et puis alors, François Floïc, son aide de camp, lui a dit, mon général, vous pouvez peut-être aller les saluer. Alors il a serré 5 mains.
Incroyable. Vous parlez comme un livre, Jean-Paul Olivier, et un livre, vous en avez écrit un. On va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 16 juillet 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Olivier.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Paul Olivier. Donc aujourd'hui, dernier jour du Tour de France. Et puis, le 16 juillet est sorti ce livre, ce pavé, le Tour de France des villes et villages chez Mareuil Édition. C'est un pavé de 650 pages qui, je crois, est la synthèse de 40 ans de travail.
Oui, il faut dire que j'ai satisfait à 3 passions. Le vélo, enfin le sport cycliste, l'histoire et la géographie. J'ai réussi à voir tout ça, vous vous rendez compte? Parce que lorsqu'on a décidé d'allonger un petit peu la diffusion des étapes, eh bien, il a fallu quand même qu'on apporte autre chose que la course cycliste stricto sensu. Donc, eh bien, on a sorti les paysages. Moi, de temps en temps, j'évoquais un château, etc. J'étais sur la moto. Mais le problème, c'est que ce château, on ne le voyait pas. On ne le voyait pas parce que je n'avais pas d'écran de contrôle. Et alors, en sortant de réunion, un jour, Charles Biétry était le chef des services sportifs, à ce moment-là, directeur des sports. Charles Biétry me dit, écoute Jean-Paul, c'est bien ce que tu fais, mais il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est que on voit pas ce que tu racontes. Donc, si tu restais avec le commentateur principal et le consultant sur la ligne d'arrivée, eh bien, au moins, tu aurais l'image de l'hélicoptère et au moins, tu pourrais commenter une image que les gens vont voir, que les gens voient.
Ça veut dire beaucoup de documentation, ça veut dire aussi beaucoup d'improvisation, Jean-Paul Olivier.
Improvisation, documentation, c'est évident, mais c'est aussi une autre culture. C'est aussi une autre culture. Donc j'étais merveilleusement au contact de cette culture. Et j'essayais toujours de me dire, bon, voilà, on va voir tel château. Alors dans ce château, il y a ceci, il y a cela, et tout. Il faut faire un choix. Hein, je ne vais pas parler que des machicoulis et ceci et cela. Non, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce château qui puisse intéresser les Français ? Qui puisse les intéresser. Alors j'essayais de trouver un film qui avait été tourné là, etc., etc. Donc il fallait un peu s'adapter au goût des Français.
Et surtout s'en souvenir, il faut une belle mémoire.
Oui, enfin ça on trouve aussi la documentation. Je ne dirais pas que j'avais forcément une grande mémoire.
Mais vous arriviez à faire comme si vous improvisiez. D'ailleurs, je crois que c'est Gérard Rolls qui vous a surnommé Polo la science, c'est ça ?
Oui.
C'est venu comment ? Comme ça un jour ?
Ben c'est venu simplement parce que lorsqu'il faisait face au tour à la fin de l'étape, eh bien il disait bon ben maintenant on va écouter Jean-Paul et la science de Polo. Alors Polo va nous raconter de belles histoires, etc. Alors on va écouter Polo la science et c'est parti comme ça.
Et vous dites d'ailleurs dans ce livre Jean-Paul Olivier que le tour c'est la France de l'instruction publique.
Ben oui, c'est bien ça.
Oui, exactement.
C'est bien ça.
Alors, ce livre de plus de 650 pages, c'est la synthèse de toutes vos notes, avec les villes et les villages classés par département, par région, et puis des souvenirs à la fois des lieux et des champions.
Oui, mais je suis allé très loin, parce que je suis parti de 1903, la date de naissance du Tour de France. Donc, si vous voulez, j'ai été rechercher la documentation aussi. Moi, je n'ai pas connu 1903, bien non. Entendu. Mais il a fallu faire la synthèse de tout ça. Donc, ça n'était pas forcément simple. J'ai un peu trimé, je dois dire. J'ai laissé un peu de ma santé, mais enfin, bon.
Et le livre existe, et c'est un dictionnaire. Alors, dans les lieux dont vous parlez, il y a Briançon. Vous évoquez Faustocopie. Qui, d'ailleurs, vous aviez consacré, je crois, votre premier livre, Jean-Paul Olivier.
Oui, c'était l'un de mes premiers livres. J'avais envie de parler de Faustocopie. Et je suis allé chez lui, alors qu'il était décédé déjà. Hein. Donc j'ai connu ses Grégari. J'ai connu tout ça. Copie, c'est un mythe extraordinaire.
Comment l'expliquer, justement? Parce qu'il est mort trop jeune, c'était un super champion?
C'était un super champion. C'était incontestablement un super champion. Vous savez, il avait un organisme en prise directe, là, dans l'effort. Il était étonnant. Et pourtant, quand on le voyait dans le civil, je veux dire, hors compétition, etc., il avait un tronc cylindrique, là, il faisait souffreteux. Il avait de longues jambes, on aurait dit un échassier de Camargue. Mais il avait une efficacité extraordinaire.
Il avait un coéquipier qui est toujours vivant, d'ailleurs je crois que c'est le dernier des Mohicans, c'était Raphaël Gemignani, qui a fait Anctil ensuite.
Raphaël est d'origine italienne, hein, il est d'Émilie-Romagne. Et donc, à un certain moment, Raphaël n'a plus de marque, il ne va plus courir sur une marque française, etc. On ne voulait plus de lui. Pour quelle raison ? Je ne sais pas, parce qu'il avait dû demander une augmentation. Plus de marque. Et Faustocopie lui a dit, « Comment, Raphaël, tu n'as plus de marque ? Tu vas venir avec moi. » Et il le prend à la Bianchi. Vous vous rendez compte, la Bianchi, c'était le nec plus ultra du sport cycliste. Et ça lui a servi, parce que dans des étapes, je ne dirais pas qu'il n'aurait pas gagné des étapes, mais en 52, par exemple, quand il gagne à Mulhouse, notamment, disons que Fausto Coppi a branché ses coéquipiers en leur disant, bon, ben, Raphaël est davanti, bisogna lasciarlo, laissons-le aller, quoi. Donc, ils ne sont pas intervenus. Mais enfin, il aurait peut-être gagné l'étape quand même.
Et puis, il y a Nice que vous évoquez aussi, avec le prologue de 81, gagné par un coureur cher à votre cœur, un Breton, Bernard Hinault.
Ah, Bernard, j'ai été avec lui pendant toute sa carrière, bien entendu. Et puisqu'on parlait de Coppi, justement, Bernard va disputer le Tour d'Italie en 1980. Il a un peu peur, il n'est pas tranquille. On parlait des tifosi, on racontait un peu ce qui s'était passé. Vous savez, la ferveur, la passion, la passionnaria italienne, c'est terrible. Et donc, il a peur. Et Guimard n'est pas tranquille non plus. Il dit à Toriani, le patron du Giro, écoutez, hein, la moindre intervention, le moindre esclandre, hop, on rentre à Paris. Donc, promesse. Bon, mais enfin... ils sont pas tranquilles. Et à l'arrivée à Gênes, c'était le prologue, je vais le voir dans sa chambre, parce que je venais d'arriver sur le Tour d'Italie, et il me dit, ben alors qu'est-ce que vous allez faire ce soir ? Alors, il disait à mon chauffeur et moi-même, ben, je dis, nous, on va d'abord sur la tombe de Fausto, parce que c'est pas loin de là, et puis je venais d'écrire un livre sur Fausto qui avait été traduit en italien, La Tragedia e la Gloria. Bon, il me dit, tiens, j'aimerais bien aller avec vous. Ah ben, je dis, écoute, il ne tient qu'à toi. Dis, mais j'ai encore à me faire masser. Je dis, ça va te prendre combien de temps ? 20 minutes. 20 minutes, pas de problème, on te prend avec nous. Et on l'emmène sur la tombe de Coppi. Vous vous rendez compte ? Et le journaliste italien, parce qu'on avait amené un journaliste italien, on avait lancé l'affaire auprès des confrères. Et on le laisse, on embauche quelque part avec nous un journaliste italien qui était chargé du fait divers du Tour d'Italie chaque jour. Et il commence par Hinault sur la tombe de Coppi, vous vous rendez compte ? Alors ça a fait un bruit extraordinaire. Le maire de Parme, deux jours après, est venu lui dire, en italien bien sûr, alors j'étais son traducteur, il dit, le maire de Parme lui dit, Monsieur Hinault, ce que vous avez fait, c'est bien d'aller sur la tombe de Coppi, parce que ni Moser ni Saroni ne l'ont fait avant vous. Alors Bernard disait, c'est normal.
Et effectivement, c'était une bonne chose. Hinault a porté 5 maillots jaunes dans le Tour de France, et le maillot jaune, Marcel Hamon l'a chanté.
Il a le maillot, le maillot bouton d'or, le maillot jaune.
Une des plus célèbres chansons de Marcel Hamon, qui a commencé d'ailleurs grâce au sport, et il s'est fait connaître à la télévision. Il fait une émission de Jean Nomin à 36 chandelles, et sa première apparition, il l'a fait en chantant pendant 3 minutes en faisant le poirier. Alors tout le monde était scandalisé en disant, mais ça va être dramatique pour lui, et ça l'a lancé.
Ah oui, vous savez, Marcel, j'ai une histoire avec Marcel aussi. Parce qu'un jour, il vient suivre une étape à Limoges, et donc Chancel l'invite sur son plateau. Et alors, il était dans ma voiture, et puis il me dit, mais je sais pas, qu'est-ce que je vais dire ce soir ? Chancel m'invite et tout, j'ai rien à dire, etc. Et je lui raconte une très belle histoire d'un régional que Coppi a chouchouté, il n'a pas mis d'italien dans sa roue, il a gagné l'étape à Limoges chez lui. Alors je lui dis, tu racontes ça ? Alors je l'avais fait répéter dans la voiture et tout ça, et il arrive devant Chancel, et il dit... Jacques, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez sans doute pas. Et il lui raconte l'histoire. Et alors, le soir à table, Chancel me dit, dis donc, t'as entendu Marcel Hamon ? Oh là là, quelle classe ! Je n'ai jamais révélé.
Bien sûr, c'est un scoop. Alors, il y a des champions qui vous ont mis la tête à l'envers, et vous évoquez Marseille, bien sûr, dans ce livre, Jean-Paul Olivier, dans ce Tour de France des villes et villages. Et vous racontez une étape qui a été, pour Merckx, extraordinaire, le jour où il aurait dû perdre le Tour de France et où il l'a gagné.
Merckx était un gagneur terrible. Donc il avait perdu ce Tour de France pratiquement, quoi. On considérait qu'il ne reviendrait pas, qu'il ne regagnerait pas.
C'était en 71, hein.
Ouais, c'était à Orcières-Merlette. Et le lendemain d'Orcières-Merlette, enfin le surlendemain, parce qu'il y avait une journée de repos, le surlendemain d'Orcières-Merlette, dès le coup de sifflet du starter, il est parti. Il est parti, il a emmené un groupe avec lui. Et ça a été à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, tout du long. Et il est arrivé, donc c'est avec son groupe, c'est un Italien qui s'appelait Armani qui a gagné. Mais il n'a pas pris grand-chose. Il a pris 2 minutes, même pas, je crois. C'est terrible, c'est si peu de choses pour un bel exploit.
Oui, sauf que Cagna a arrêté ensuite et a abandonné, et que Merckx a quand même gagné le tour.
Ben oui, parce que c'était dans la descente du col de Manté, il pleuvait encore, et la route était glissante. Et Merckx l'avait provoqué, tout de même. Il avait attaqué une première fois, Ocaña était revenu une deuxième fois, etc., etc. Il l'avait vraiment provoqué, et Ocaña, est parti, pratiquement, mais il a chuté.
Il y a beaucoup d'autres souvenirs dans ce livre, qui est en même temps un manuel de géographie, ce Tour de France des villes et villages chez Mareuil Éditions. Je le conseille à celles et ceux qui aiment l'histoire, la géographie, le Tour de France, et ils sont nombreux. Merci Jean-Paul Olivier de tout ce savoir et continuez à défendre le plus longtemps possible cette France que vous aimez.
Merci Jacques.
Merci et à bientôt pour d'autres clés d'une vie et surtout, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.